Les blablas de l'ESS, c'est sérieux?
Sans se prendre au sérieux.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette nouvelle édition des blablas de l'ESS. C'est une première soirée d'un cycle de trois blablas de l'ESS qui sera consacré à l'éducation. C'est organisé par le pôle essentiel Plouermel, en partenariat avec les cafés associatifs et coopératifs du territoire, le café de la Source à Monteneuf qui nous accueille ce soir et qu'on remercie. Les prochains blablas se dérouleront au café de la Forge à Guillac le 30 novembre. Et le dernier sur l'éducation se tiendra en janvier au Champ commun à Augan. Les blablas de SS, c'est aussi réalisé en partenariat avec Timbre FM ici présent, qui enregistre les échanges et qui nous permettent de les réécouter ensuite en podcast sur leur site internet et sur le site internet d'Essentiel Plouermel. Je vais passer la parole à Agathe qui nous accueille ce soir au Café de la Source.
Oui, bonjour. Donc Agathe, salariée au Café de la Source, qui est un café associatif à Monteneuf. Nous accueillons les blablas de ce soir et nous sommes bien heureux de faire cela. Voilà, je voulais vous prévenir que une des bénévoles du café, Virginie, avait pris un petit temps pour sélectionner un certain nombre d'ouvrages à la médiathèque de Monteneuf dans le thème de ce soir. Donc, éducation scolaire, a-t-on les mêmes chances en milieu rural? Donc voilà, pour les gens qui sont sur place, désolé les auditeurs, vous pouvez consulter les ouvrages et y voir quelques échos à la soirée de ce soir.
Merci beaucoup. J'espère que vous êtes bien installés. Je vais passer la parole à Henri-Georges Madeleine qui va nous piloter pour la soirée. Et puis, je vous dis à tout à l'heure.
Merci Patricia. Et nous accueillons, comme à chaque fois, deux témoins, des personnes qui sont concernées par le sujet et qui viennent partager leurs questionnements. Et ce soir, c'est Marie Huette et Yves Fournier qu'on présentera plus en détail ensuite. Vous savez qu'on commence toujours par une ou deux petites vidéos pour essayer de tenir au maximum une quinzaine de minutes. On a choisi des vidéos qui essayent de montrer différents enjeux en fait de l'éducation et de l'enseignement en milieu rural. Voilà, on se retrouve d'ici une grosse dizaine de minutes.
C'est l'une des réalités mises au jour par la crise des gilets jaunes, le quotidien d'une partie des Français dans un monde rural éloigné de tout. Une fracture territoriale qui concerne aussi les jeunes, ils sont plus de 2 millions à grandir à la campagne. La vie loin des grandes villes, une jeunesse oubliée. Céline Blampin, Brice Gérès.
Le jour se lève dans un village du centre de l'Ardèche. Il est 7 heures. Et comme tous les jours, Patricia, agricultrice, dépose son fils de 15 ans à l'arrêt bus de Rochepol, une commune de 260 habitants. Pour Quentin, la journée commence à 6h30, car ici, il n'y a pas de collège. L'école primaire a fermé il y a 10 ans.
De toute façon, on n'a pas le choix, donc il faut bien qu'ils aillent à l'école. Voilà, le soir, souvent 8h, 8h30 au lit. Parce que ben voilà, il faut qu'ils se lèvent tôt le matin et puis il y a les devoirs aussi à faire.
Selon l'INSEE, en milieu rural, un jeune sur deux parcourt plus de 20 km pour aller étudier. Depuis l'âge de 6 ans, Quentin passe 1h30 par jour dans les transports.
Ben, je joue au téléphone ou dans un paysage, il n'y a pas grand chose à faire.
En France, plus de 2 millions de jeunes grandissent dans les campagnes. Malgré des conditions d'enseignement optimales, des classes en petits effectifs comme ici à Saint-Agrève, ces élèves s'orientent davantage vers la voie professionnelle.
Et après, il y a quelques petits calculs à faire.
À l'université, à peine 7% des ruraux accèdent au niveau master, contre plus de 15% des jeunes urbains.
C'est vrai qu'ils reproduisent le milieu socio-professionnel des parents, en fait. Et c'est vrai que nous, en milieu rural, on en a, ben, on a beaucoup plus d'ouvriers, on a beaucoup moins en pourcentage d'ingénieurs. Enfin, on n'évolue pas au niveau social, quoi, dans nos ruralités.
Dans le département de l'Ardèche, il n'y a pas d'université. La plupart des centres de formation se trouvent à plus d'une heure de route.
Bah oui, j'ai un projet, je voulais faire soit CAP carreleur ou CAP maçon, mais j'hésitais encore un peu.
Maçonnerie, comment t'y as pensé, la maçonnerie?
Parce que mon père, il est dans le bâtiment, alors du coup...
Cet élève de 3e a rendez-vous avec une psychologue conseillère d'orientation. Avec 12 de moyenne, il a le niveau pour préparer un bac professionnel. Mais Nance veut s'inscrire dans un CAP en alternance, ce qui lui permettra de travailler dans une entreprise en Ardèche, à côté de chez lui.
Comme je suis en alternance, c'est souvent 3 semaines au travail, 1 semaine à l'école. Alors on n'est qu'une semaine dans la ville, enfin on est loin quoi. Et on n'est qu'une semaine, alors ça va, c'est pas trop dérangeant, 1 semaine ça va.
Nous, notre rôle en fait, c'est de s'assurer qu'ils savent bien qu'ils ont tout le champ des possibles.
Absence de réseau, manque d'informations, fragilité économique. Pour de nombreux jeunes, la grande ville fait peur. Même les bons élèves limitent leurs ambitions scolaires.
Est-ce que tu as déjà réfléchi à aller à l'université?
Non.
Pourquoi?
Je sais pas, ça fait loin. Dans la campagne, on voit plus les métiers comme menuisier ou on voit pas trop les métiers en entreprise. Par exemple, agriculteur, on le voit plus. Et du coup, après, je pense que les gens qui habitent dans les grandes villes, ils peuvent être plus influencés par les métiers qu'ils voient, qu'ils découvrent. Nous, on peut pas découvrir vraiment beaucoup de métiers, en fait.
Bien plus que les études supérieures, ce qui préoccupe les jeunes de Saint-Agrève, c'est l'obtention du permis de conduire, seul sésame pour décrocher un emploi. Car en Ardèche, il n'y a même pas de train. La dernière ligne a fermé en 1973.
Forcément, dès qu'ils ont l'âge de conduire une voiture, c'est primordial, quoi. Même s'ils restent dans la région pour aller travailler, ils sont obligés de l'avoir rapidement. D'ailleurs, sur un CV, c'est souvent ce qui est demandé, déjà.
Dans les territoires ruraux, 25% des jeunes de 18 à 24 ans n'ont ni emploi, ni formation.
Moi, j'utilise la voiture de ma mère, parce que donc, du coup, j'ai le permis depuis 1 an, mais j'ai pas de voiture, vu que ça coûte un peu cher, donc j'utilise cette voiture-ci.
Emmanuelle, 21 ans, a arrêté ses études après un bac littéraire. Depuis 3 ans, elle cherche du travail.
Elle a été formée à un logiciel particulier?
Non, pas spécialement. On utilise OpenOffice Draw.
Grâce à l'aide d'une conseillère en insertion dans cette mission locale, elle a obtenu une aide financière pour passer son permis et un emploi aidé, un CDD d'un an dans un centre culturel, payé 800 euros par mois.
J'avais pas forcément envie de partir de l'Ardèche. J'avais envie de rester aussi.
Pourquoi tu voulais pas partir?
J'aime pas trop tout ce qui est ville. Je préfère tout ce qui est village, montagne.
Il pourrait y avoir quelque chose comme manque de confiance ou de se sentir inférieur, le fait d'être de la zone rurale.
Aujourd'hui, des associations réclament la mise en place d'aides spécifiques pour les jeunes de milieu rural. Le contrat aidé d'Emmanuel se terminera en août prochain. Pour la suite, elle envisage de suivre une formation dans l'édition par correspondance.
Alors, nous sommes au collège Jean Coignet à Courson-les-Carrières, dans une commune du département de l'Yonne. Alors, nous accueillons des élèves qui sont en zone rurale, puisque le collège est implanté dans une zone rurale. Il y a 8 écoles de secteur qui alimentent ce collège. Le profil des élèves est très hétérogène. Nous avons des élèves, un grand nombre d'élèves qui vivent avec leur famille, mais nous avons aussi un certain nombre d'élèves qui vivent en foyer d'enfance, qui vivent dans des lieux de vie et dans des familles d'accueil. Effectivement, nous avons un certain nombre d'élèves avec de très bons dossiers qui ne souhaitent pas forcément aller en seconde générale, mais plutôt se diriger vers la voie professionnelle pour trouver un emploi le plus rapidement possible. Et du coup, notre travail à nous, ici, c'est de favoriser cette ambition, de bien montrer à l'élève et à travers l'élève, à ses parents, qu'il peut réussir. Parce que le conseil régional met en place des transports. Donc, même si le lycée de Toussy est à 25 km de Courson, dans les communes de secteur, il y a des transports qui prévoient. On n'est plus sur le blocage géographique, hein, et le blocage, j'allais dire, de transport. On est plutôt sur un blocage d'anxiété, on va dire, des familles anxieuses, des enfants anxieux qui qui ont peur de ne pas réussir alors qu'ils ont vraiment tous les éléments pour réussir. Et c'est d'où la mise en place de toutes les actions qui favorisent le bien-être, en fait. Le bien-être, le climat scolaire ou comment construire le bien-vivre ensemble tout en mettant l'accent sur l'estime de soi. On met beaucoup l'accent ici sur l'estime de soi des élèves.
L'atelier cirque est né cette année, il a été déployé cette année suite à une formation dans l'établissement l'année dernière qui traitait de la persévérance scolaire des élèves. Donc cet atelier a pour vocation de développer la confiance en soi et la persévérance des élèves. Certains élèves, comme dans tous les établissements scolaires, ont besoin d'être accompagnés, soutenus dans leur vie d'élèves, de reprendre confiance en eux, de comprendre qu'ils ont des capacités qu'ils n'exploitent pas forcément. Et ce type d'atelier permet d'aborder ces notions de façon différente.
Moi, je suis là parce que je bouge trop tout ça. Et du coup, c'est pour canaliser mon énergie, comme on dit ça.
Le kangourou ne fut pas toujours tel que nous le connaissons aujourd'hui. C'était autrefois un animal différent, avec quatre courtes pattes. Il était gris, laineux et d'un orgueil démesuré. Il dansait sur une crête au milieu de l'Australie et il alla trouver le petit dieu Mika.
Alors l'atelier sommeil compté, là c'est vraiment pour apaiser les élèves, puisque on est dans cet établissement, c'est comme partout, on fait face aussi à des incivilités. Et donc il est nécessaire de créer un climat serein. Donc le climat scolaire, c'est ça aussi, c'est quelles sont les actions que nous allons mettre en place dans un établissement pour que le climat scolaire soit apaisé.
Donc depuis 3 ans, nous menons des actions sur le bien-être au collège. Nous avons commencé dans le cadre du club santé à parler des émotions, la gestion des émotions, à savoir ce que c'est, comment apprendre à les gérer. Et ça fait 2 ans qu'il y a une sophrologue qui intervient au collège. Ici à Courson, on est isolé, c'est rural. On est entre Clamecy et Auxerre avec... pas de moyens de locomotion facile, il n'y a pas de train, pas de navette de bus. Les parents sont souvent aussi démunis au niveau du transport, au niveau des véhicules. Soit il n'y en a qu'un pour la famille, il y en a un des deux qui travaille, ou il n'y en a pas du tout, ou alors il n'y a pas assez de moyens pour mettre du carburant. Donc c'est une demande au collège, c'est pour ça qu'il y a toutes ces actions au collège. C'est pour amener l'éducation qui ne peut pas être accessible à l'extérieur, à l'intérieur du collège, pour qu'un maximum d'élèves puissent en bénéficier.
Ah, mademoiselle, c'est terminé.
Il est fini. Non mais Laurie,
Lucas, c'est terminé aussi.
Ok, il en reste plus que deux chez moi là.
Lors de cette séance de sensibilisation, les élèves sont obligés de mettre en place une stratégie empathique en équipe. Après, l'objectif, c'est de leur expliquer qu'ils sont au quotidien, ils ont des émotions, ils sont traversés par des émotions, très souvent fortes, et ils doivent apprendre à les comprendre pour pouvoir mieux les gérer.
Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'empathie. Et pour pouvoir faire preuve d'empathie, il faut avoir une certaine connaissance de ses émotions.
T'as l'air déçu, non ?
C'est pas un truc que je ferais tous les jours.
Ah ben vous l'avez jamais fait, je te confirme. Ouais. Et qu'est-ce qui te chagrine, le fait d'avoir perdu ou pas ?
Non, on a gagné.
Non, ben non, parce que je sais, des fois il y a des garçons, ils perdent, ils sont pas contents. Donc c'est pas ça. Donc en fait, qu'est-ce qui te pose souci ?
Je sais pas.
Tu comprends pas trop ce qui se passe ?
Non.
D'accord. On va expliquer.
Moi, je trouvais que c'était... D'un côté, c'était ça allait pour tenir, mais après, ce qui était plus difficile, c'était de comprendre les autres, savoir quand est-ce qu'ils avaient besoin d'aide.
Ouais.
Sophie Romain, pas un mousquetaire n'a été sollicité. Normalement, si vous vous organisez bien, ça peut durer très longtemps.
Donc, ce qu'il y a bien au collège ici, par exemple, à Courson, c'est qu'ils font du cirque, ils font des échecs, ils font du dessin, du portrait, de l'étude de l'histoire. Donc, chaque enfant, je pense, peut trouver justement des choses dans leur collège qu'ils n'ont peut-être pas en ville, justement.
Gilek Mbamba. Gilek
Alors si effectivement un jour il était prévu que les zones rurales puissent intégrer l'éducation prioritaire, après pourquoi pas, c'est à redéfinir avec les services académiques. Peut-être qu'en zone rurale, ça stigmatiserait trop les élèves. Ça serait moins... ça se fondrait moins dans la masse, on va dire.
Les blablas, c'est d'abord un témoin. Voilà, on a deux témoins aujourd'hui. Yves, tu peux venir avec nous. Et Marie, donc je vais vous demander de vous présenter. Marie, tu es enseignante à Carantoire, c'est ça ?
Oui, c'est ça, à l'école publique de Carantoire. Je suis enseignante en CE2, CM1, CM2. Voilà,
oula,
triple niveau.
Oui.
Voilà. J'ai quand même un effectif de classe confortable puisque j'ai 18 élèves. Donc, c'est la première année que j'enseigne à Carantoire. Avant ça, j'ai enseigné à Gourel, à Campénéac, à Séran. Et puis encore avant, j'enseignais en région parisienne. Donc voilà, moi je peux comparer un petit peu ce que c'est d'enseigner en milieu rural et en milieu urbain. Quoi.
Voilà, c'est pour ça qu'on est content que tu sois là, justement. Yves, alors toi, c'est Concoré.
Alors moi, oui, c'est ça.
Tu es directeur.
Je suis directeur de l'école de Concoré. J'ai, un peu comme Marie, j'ai CE2, CM1, CM2 et cette année 18. Je suis donc à Concoré depuis une dizaine d'années.
Oui.
Mais sinon, ça fait plus de 30 ans que je suis toujours dans le même coin, en fait.
Oui,
donc,
d'accord.
Les écoles autour. Alors moi, je n'ai pas d'expérience en milieu urbain, si ce n'est quand j'étais élève, mais ça fait longtemps et ça a dû changer beaucoup.
Oui. Et donc, c'est un choix d'être en milieu rural ? Pour l'un comme pour l'autre ?
Oui, pour moi, c'est un choix. Après, c'est un choix de vie et puis du coup, un choix professionnel, le choix professionnel qui va avec.
Oui.
Moi, ça me convient d'enseigner en milieu rural. J'y vois des avantages.
Lesquels, justement ?
Alors, je pense qu'il y a une certaine proximité avec les élèves. Déjà, quand on est dans une petite école, on connaît tous les élèves de l'école. Alors que c'est vrai qu'en milieu urbain, moi j'ai enseigné dans des très grosses écoles qui, moi, quand je suis arrivée à Paris, ben, me semblaient, parce que je ne suis pas originaire de Paris, donc me semblaient... Enfin, j'avais l'impression que ça ressemblait plus à des collèges qu'à des, voilà, qu'à des écoles primaires, avec beaucoup de classes, et puis bah oui, des élèves qui ne se connaissent pas forcément entre eux, et des enseignants qui ne connaissent pas tous les élèves. Donc voilà, je trouve que ça, c'est un des avantages. Un autre avantage, moi, que je vois, mais bon, c'est pas forcément une opinion partagée, mais c'est que souvent, il y a plusieurs niveaux dans une classe, ce qui est beaucoup moins le cas dans les écoles parisiennes, c'est des niveaux simples. Et moi, je pense que les multiniveaux, c'est intéressant parce que les petits apprennent beaucoup des grands, comme les enfants fonctionnent quand même par mimétisme.
Oui.
Ça permet que l'enseignant, l'enseignante ne soit pas le seul modèle, quoi. Et donc, on peut s'appuyer sur les plus grands pour que les petits apprennent.
Mmh.
Et puis, les grands, eux, ils ont plus de responsabilités parce qu'ils sont un peu les tuteurs des petits. Et donc, ils ont des responsabilités.
C'est d'autres apprentissages.
Ça mène à l'autonomie, quoi.
Oui. Voilà. C'est quelque chose que tu vérifies aussi.
Ah, tout à fait. Et les grands apprennent des petits aussi. Parce qu'en fait, quand les grands font travailler des petits, ils sont obligés d'avoir les idées claires en tête, en fait. Ils se rendent bien compte si c'est bien installé ou pas, justement.
Comme les enseignants, d'ailleurs.
Et, tout à fait. Comme tous les adultes en général, on se rend bien compte quand on explique quelque chose qu'on ne maîtrise pas tout à fait, en fait, et ben, c'est qu'on le maîtrise. On se rend compte qu'on ne le maîtrise pas. Mais moi aussi, je suis attaché énormément aux petites écoles parce qu'on y trouve des multiniveaux. Et je comprends qu'on puisse aimer un seul niveau, mais moi, je ne changerai pas, en fait.
Oui. Et justement, qu'est-ce qui t'a fait choisir d'intervenir en milieu rural ?
Ah non, j'ai quitté la région parisienne, mais il y a longtemps, quand j'étais étudiant. Et de fait, ici, il n'y a que des écoles rurales, en fait. Enfin, plus ou moins grandes, mais j'ai travaillé dans des plus grandes écoles, mais pour moi, une grande école, c'est 7 ou 8 classes. Il y a des grandes écoles de 15 ou 20 classes. Pour moi, une grande école, c'est 7 ou 8 classes. Et là, je suis dans une école qui était à 2 classes, qui maintenant est 3. Et c'est parfait.
Donc, c'est pas un choix par défaut ?
Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Et un autre avantage du multiniveau aussi, c'est que du coup, on a à peu près les mêmes élèves sur plusieurs années.
Oui. Et c'est un avantage ?
Pour moi, oui. on peut faire des choses qu'on ne pourrait pas faire sur un an, en fait. Parce oui. que on pense toujours à l'école, bon, il y a le programme, etc. Oui, mais il y a tout le reste, en fait, toute la relation qu'on peut avoir avec les élèves entre eux, les élèves avec les parents, nous avec les parents. C'est vrai que ça, c'est un sacré avantage. Je ne connais pas des grosses écoles, mais on connaît à peu près tous les parents. On connaît tous les enfants, évidemment. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte dans la façon qu'on a de faire en classe.
Oui, et puis peut-être parce aussi construire des projets aussi, c'est peut-être plus facile à mettre en œuvre quand on a plusieurs années devant soi, non ?
Aussi,
oui.
Oui.
Et donc, il n'y a que des avantages. Alors, on s'est trompé pour le sujet. Voilà, on se disait, est-ce qu'il y a des problèmes liés à la question, le fait d'être en milieu rural pour les élèves et les enseignants ? Et puis, bon, les vidéos sont plutôt centrées sur le second degré, mais c'est en ça. Même temps, il y a des choses qui sont, à mon avis, comparables quand même, en fait. Et puis, de toute façon, vous ne travaillez pas en vase clos et puis uniquement concentré sur votre école primaire. Yves, tu voulais dire ?
Non, je disais justement, oui, la vidéo, elle traitait essentiellement du collège. Et c'est vrai qu'à l'école primaire, il n'y a pas ce problème de transport. Ça, c'est un gros problème pour le collège et le lycée, c'est qu'il y a le transport. À l'école primaire, non. Enfin, il y a quelques enfants qui prennent un bus, mais ils sont assez rares quand même et c'est très court. Et puis dans la vidéo, ça traitait justement la ruralité, est-ce que c'est vu par les enfants qui y sont ? On a l'impression, en écoutant certains, qu'ils ont comme un petit sentiment d'infériorité par rapport au milieu urbain, parce que on est de la campagne, donc il y a des choses qu'on peut pas faire ou qu'on sait pas faire. Il n'y a pas ce problème-là. Enfin, on le voit pas à l'école primaire, en tout cas.
Non, tu le sens pas non plus, Marie ?
Pas encore.
Oui, moi, j'ai lu un petit peu, du coup, et en fait, j'ai vu un chiffre qui m'a étonnée, c'est que dans les années 60, il n'y a que 40% des enfants en milieu rural qui accédaient à la 6e, en fait, alors qu'à Paris, c'était près de 80%, quoi. Donc, c'était une différence énorme. Et qu'aujourd'hui, cette différence-là, elle n'existe plus. En revanche, ce qui reste, c'est une appréhension par rapport à la 6e, qui est très présente apparemment en milieu rural, alors qu'elle ne l'est pas en milieu urbain. Donc, il y a quand même une sorte de complexe. Enfin, moi, je ne m'en étais pas forcément rendu compte, mais apparemment, les chiffres le disent, quoi. Il y a un certain complexe scolaire qui existe en milieu rural qui n'existe pas en milieu urbain.
Oui, mais justement, les équipements et les établissements sont plus proches en milieu urbain, en fait. Et là, ce qui fait la différence, justement, c'est d'avoir à aller plus loin pour aller au collège et après au lycée. Ça, c'est évident. Et donc, ça veut dire qu'ils ont d'autres horaires, etc., quoi, en fait. Et bon, ça doit certainement intervenir aussi, j'imagine.
Là, moi, j'ai des souvenirs plus d'élèves, mais en effet, quand j'étais lycéenne, je prenais le car tous les matins à 7h15, ce qui est quand même... finalement, c'est assez tôt, quoi. Et je pense que des enfants en ville, non, c'est pas... non, voilà. C'est... Alors, on y est habitué, et puis voilà. Et de la même façon, pour aller à l'université, quand on vit en milieu rural, je crois qu'on a très tôt en tête que si on veut aller à l'université, il va falloir partir assez loin. Moi, j'étais plutôt enchantée de ça, mais après, c'est pas le cas de tous les enfants et c'est compréhensible, en fait. C'est que c'est pas un choix, justement. On est obligé de quitter le lieu où on vit pour aller étudier. Ça veut souvent dire quand même aussi passer son permis. Donc, c'est un coût à la charge des familles qui est pas négligeable, à mon avis. Qui compte, en tout cas, je pense, dans le choix des familles.
Yves ?
Oui, pour les études supérieures, c'est sûr que ça a un coût, c'est pas seulement le permis, c'est un logement, c'est la bouffe du jour.
Oui,
j'étais en fac à Paris et j'habitais chez moi. Donc j'avais pas de logement à me payer. Donc ça, c'est un sacré frein, je pense. Il y a l'envie de partir peut-être, mais il y a aussi la possibilité de. Parce que tous les parents, ça a un coût quand même.
Mais bien sûr.
Des études d'un, et souvent, il y en a deux quasiment en même temps qui font leurs études quelque part. Donc. De logement, de transport,
tout ça. Oui, puis en plus de ça, vous ne parlez même pas de résidence universitaire, là, hein, parce que ces services-là deviennent de moins en moins importants.
Et puis c'est pas toujours simple, c'est pour ça que ça se développe, tout ce qui est colloque et colocation, et débrouille, quoi. Débrouille. Partir après, est-ce que ça vient du milieu rural ou de l'éducation à la maison ? Il y a des enfants qui ont envie de partir et d'autres qui n'ont pas envie. J'en connais en milieu rural qui partent, et qui partent loin même.
Oui, mais
Et d'autres, au contraire, qui veulent rester. Mmh. Ou ils partent un petit peu parce que les études, au moins le lycée...
Mais est-ce qu'ils veulent rester ? Je suis convaincu qu'il y en a qui veulent rester. Il y avait des témoignages. Mais est-ce que, là, quand on posait la question d'avoir les mêmes chances, comme ça, en fait, est-ce qu'il n'y a pas une partie de ces jeunes qui, n'imaginent même pas avoir la possibilité de faire des choix et se disent je vais faire un boulot, je vais pouvoir y accéder rapidement. Il y avait un témoignage de cet ordre, et puis je sais que mes parents pourront pas prendre en charge, donc c'est pas la peine que je me casse la tête. Je me demande s'il n'y a pas des choix par défaut comme ça, en fait, vous croyez pas?
Je crois qu'il y a de tout, en fait. Je ne sais pas si c'est facile de dégager des grandes lignes. Moi, ça fait plusieurs dizaines d'années, du coup, que je travaille autour du même collège. Et donc, il y a beaucoup d'élèves ou d'anciens élèves que je connais et je sais ce qu'ils sont devenus.
Oui,
pas tous,
justement,
mais beaucoup.
Oui.
Et il y a de tout. Il y en a qui sont partis très loin. Il y en a qui sont partis un petit peu, qui sont revenus parce qu'ils ne concevaient pas de vivre ailleurs que... dans la même ville que leurs parents. Mmh. Moi, je n'ai pas déterminé de règles. Enfin, pas de règles, mais de...
De tendance.
De tendance.
Ouais. Moi, je pense que pour tout élève, c'est quand même difficile de trouver sa voie, son orientation, etc.
Oui.
Et je pense que l'éloignement géographique peut ajouter à la difficulté, peut faire partie des critères géographiques, économiques, etc. Donc, à mon sens, ce n'est pas des bonnes raisons, mais elles sont... Et ils sont forcés de les prendre en compte, donc ça peut influencer, oui, à mon avis.
Est-ce que vous ne croyez pas, justement, que, par exemple, avec la réforme du lycée, avec les options, etc., ça sera vraiment beaucoup plus difficile d'assumer les mêmes choix en milieu rural qu'en milieu urbain? Si quelqu'un veut faire du slovaque, par exemple, ça va être dur de trouver ça dans les environs de Concoré ou de Carantoire.
Oui, tout à fait. On le voit dans les lycées, l'offre n'est pas la même, selon qu'on est en centre-ville de Paris. C'est évident, les lycées... Enfin, il y a des différences, pour le coup, entre les lycées, là, sur les options proposées. Donc, ça pose quand même question. Parce qu'on parlait de l'université, mais si maintenant la question se pose dès le lycée, c'est vrai que...
Même dès le collège, parce que ça fait longtemps qu'il y a, selon la taille des collèges, pour les langues...
Mm-hmm.
Anglais, allemand, enfin en ville, on n'a pas les mêmes choix, quoi.
Bien sûr.
C'est très souvent anglais.
Mm-hmm.
Il y a eu de l'allemand, il n'y a plus eu parce qu'il y avait trop peu d'élèves, donc en fait.
Il y a des déclinaisons.
Ouais, aussi, mais.
Mm-hmm. Ben oui, bien sûr. Non, mais
c'est le problème du choix qui sera. Oui. Après, ça vient d'ailleurs. Ça, c'est des politiques éducatives qui.
Merci de préciser des politiques éducatives
qui peuvent nous mettre en difficulté.
qui orientent les choses. Que les enfants aient envie de partir ou pas. Là, dans le reportage, c'était présenté comme si la ruralité, c'était un fardeau pour eux. Dans ce cas-là, ils devraient avoir envie de partir, justement.
Mm-hmm.
Mais non, ils partent pas tous. Moi, j'ai pas vu de tendance. Maintenant, ça peut aussi être compliqué de rester. Alors moi, je connais pas bien la réforme du lycée. Je suis à l'école primaire, mais ça va être moins simple.
Mmh.
Pour les lycéens, pour choisir leurs options, parce qu'il n'y aura pas la même offre partout, évidemment.
Ou ça sera peut-être plus simple, parce qu'en fait, ils n'auront pas beaucoup à choisir, quoi. En fait, ça, le problème aussi. Mmh. Et la question qui se pose aussi, quand tu parlais de choix plus généraux, en fait, s'il n'y a pas beaucoup de profs d'allemand, c'est clair qu'on ne va pas donner des cours d'allemand. Mais ça veut dire qu'il y a de moins en moins, peut-être, de diversité aussi, d'une certaine manière, sauf dans des endroits qui pourraient être plus privilégiés. Et à ce moment-là, est-ce qu'on ne peut pas faire un lien entre les situations? Peut-être dire que ce n'est pas simplement la question du monde rural, mais c'est que le monde rural associe aussi d'autres handicaps qui sont pour une partie de la population. Et les moyennes, les statistiques en termes de revenus le montrent, c'est que les moyens financiers des familles sont limités et que les contraintes du fait de vivre à la campagne sont des facteurs qui peuvent bloquer aussi certaines orientations, certaines possibilités. Et puis qui font que les gens font contre mauvaise fortune bon cœur, comme disait ma grand-mère, quoi, non ?
Si, parce que en effet, vivre à la campagne ou en milieu rural, c'est pas toujours choisi non plus, ça peut être subi, donc pour des raisons économiques. Il y a des gens qui vivent en milieu rural, mais et puis de toute façon, on dit souvent voilà que l'école est le reflet de la société. Les difficultés du monde rural, du monde professionnel rural, elles se retrouvent un petit peu dans l'école, et ça joue aussi sur l'ambition des élèves, même si j'aime pas trop ce mot ambition, mais enfin, en tout cas sur l'horizon de possible qu'ils peuvent envisager, quoi.
Oui. Alors, je sais qu'il y a d'autres enseignants dans la salle. Alors, est-ce qu'il y a des témoignages du côté de Rémignac?
Donc, je suis Sylvain Pogam, donc je suis enseignant directeur à l'école de Rémignac. Donc, c'est l'école en fait de Rémignac et Monteneuf.
Oui.
C'est un RPI, donc
RPI,
deux classes.
C'est-à-dire RPI.
C'est un regroupement, en fait.
Ah, voilà, c'est ça. Parce que les gens qui sont de l'autre côté ne comprennent pas forcément. Voilà, regroupement.
Donc, petite école, deux classes.
Oui.
37 élèves.
Oui.
Moi, avant d'enseigner à Rémignac, j'étais dans une école un peu plus grande, à Lagassie. Donc, pas très loin non plus, aussi milieu rural. Mais.
Lagassie, c'est
160 élèves.
Ah oui.
Voilà, et donc là, je suis arrivé à Rémignac par choix.
Par choix.
Voilà, j'avais vraiment envie de travailler dans une petite école, et c'est un choix que je ne regrette pas du tout. Mes collègues, tout à l'heure, ont parlé du fait de bien connaître les élèves, et puis aussi les familles. Et c'est vrai que dans une petite école comme à Rémignac, c'est une ambiance, je dirais, familiale, en fait. On connaît tout le monde, et ce sont des écoles, je ne sais pas si c'est le cas partout, mais moi, j'ai trouvé où on a beaucoup moins de conflits. Le fait qu'il y ait moins de monde, et puis qu'on connaisse bien les gens, qu'on les croise le matin, parfois le midi, le soir. Mais ça fait qu'on travaille dans une ambiance beaucoup plus apaisée. Où j'étais avant, donc dans une plus grosse école, c'est vrai qu'il y avait plus de conflits avec les parents et aussi plus de conflits entre élèves. Ce que j'apprécie aussi, donc ce qui a été évoqué tout à l'heure par mes collègues aussi, c'est le fait de retrouver les élèves d'une année sur l'autre. On les connaît vraiment bien. Ça permet de vraiment bien les suivre. Si je devais mettre un petit bémol, ça serait sur l'accès à certaines activités.
Oui.
Voilà, quand on veut faire quelque chose dans une toute petite école, dans une petite commune, sur place, on a... Je ne vais pas dire on n'a rien. Il y a des choses qu'on n'a pas. Par exemple, on n'a pas de médiathèque. On n'a pas de cinéma, on n'a pas de lieu de culture, en fait. Quand on veut faire quelque chose, on est obligé de se déplacer. Ça serait un petit bémol. Après, si on va aller faire une sortie en forêt, voilà, on a juste à prendre une paire de bottes et puis on y est, quoi. Donc, y a des avantages, des inconvénients, mais pour moi, il y a plus d'avantages que d'inconvénients à être dans une petite école en milieu rural.
En milieu rural, d'accord. Ouais. Est-ce que c'est partagé, ça ?
Ah oui, tout à fait.
Ouais.
C'est vrai que le problème d'aller quelque part, des fois pas loin, mais il faut un car. Et du coup, ça a un coût, quoi. Bon, le problème, on le résout toujours.
Et comment on le résout ?
On le résout, on se débrouille. On voit que ce soit la mairie, les parents, l'OCCE, on trouve une solution, quoi.
Ouais.
Ça peut être problématique. Sylvain, il travaille dans une école qui fait partie d'un RPI. Donc, un RPI, c'est un réseau. C'était à l'origine pour éviter des fermetures d'écoles, en fait. Et il y a d'autres types de réseaux. Et par exemple, avec Concoré, on travaillait en réseau avec deux autres écoles qui impliquaient des rencontres entre écoles tous les 15 jours à peu près. Donc on travaillait sur un thème. Donc il y avait des rencontres des enfants et un boulot en commun qui était vraiment assez passionnant. Et avec à la fin de l'année, on terminait par une expo qui faisait venir les parents des trois communes. Enfin, c'était quelque chose au niveau du lien social, c'est à la mode. C'était quelque chose de très important. Mais ça impliquait des déplacements. Il y avait un budget avec le conseil général qui l'a sucré au bout d'un moment. Et du coup, il n'y a plus de réseau. On fonctionne vraiment au strict minimum.
Et c'est quoi le strict minimum ?
C'est une ou deux rencontres par an, quoi.
Ouais. Alors que vous êtes à combien de kilomètres ?
Saint-Brieuc-de-Mouron, Brignac et Concoré. Ça fait 15, quoi. 15
km. Oui, c'est à perpète, enfin.
Ouais, non, mais si on ne peut pas y aller à pied, il faut un car, c'est ça.
Non, mais justement, c'est ça. C'est là que c'est fou. En fait, ce dont vous nous parlez, c'est des choses qui peuvent sembler, des évidences, des détails, quoi. Alors que c'est des détails qui complexifient la vie, les actions. Quand on n'a pas les moyens de mettre en œuvre les choses, on se débrouille, mais quel effort. Et l'effort y est stimulant en même temps, on va dire. Bon, mais ça n'empêche que ça veut dire un investissement supplémentaire par rapport à d'autres collègues. Marie, tu trouves ça ou pas ?
Oui, oui, moi je trouve que c'est un sujet, l'écart, que moi j'ai pas connu en région parisienne avant, mais réserver l'écart longtemps à l'avance, donc anticiper le projet. Je voudrais faire 2 sorties dans l'année, ou 3. Ah ben mince, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut... Si, quand même, moi je trouve que c'est un vrai... ça peut être un frein. Après, ce que j'ai quand même observé en région parisienne aussi, moi j'aurais tendance plutôt à dire qu'il y a, oui, école rurale, école urbaine, mais il y a aussi école urbaine centrale et école urbaine plutôt périphérique, quoi. Oui. Et où les questions de transport se posent également. Moi, j'y ai enseigné au moment des attentats. Après les attentats, on ne pouvait plus bouger de l'école. Hein. Là, c'était pas prendre le métro, ni le bus, ni... En tout cas, on ne pouvait pas prendre le bus. Avec des petits, c'est compliqué quand même de prendre le métro. C'était très, très compliqué. Il y a aussi quelque chose qui a juste été évoqué avec les RPI, c'est que moi, ce que j'ai découvert en arrivant ici, c'est quand même un peu l'épée de Damoclès qui est sur les petites écoles rurales, c'est la fermeture de classe.
Oui, justement.
Quand même, ça, c'est quelque chose où... voilà, moi, je ne l'avais jamais vécu avant. Et là, dans toutes les écoles où je suis allée, il y a vraiment, vraiment ça qui... ça compte, quoi.
Et c'est un stress.
Ben, je trouve que ça met un peu de, ça peut mettre un peu de tension dans les écoles. Bon, après, en général, les directeurs, directrices font tout pour que ça ne soit pas le cas. Mais oui, il y a un stress par rapport à ça. Mmh. Surtout pour les directeurs, directrices d'école, je pense. Et pour les enseignants qui sont arrivés les derniers dans l'école et qui se disent, s'il y a une fermeture de classe, c'est moi qui pars, quoi. Donc, c'est pas évident.
Il y a une question, oui.
Oui, c'est juste dû à quoi, en fait, cette épée de Damoclès, précisément. C'est quoi, c'est assez de gens, pas...
Oui, c'est ça, pas assez d'élèves. S'il n'y a pas assez d'élèves, par exemple, si on fonctionne dans une école à 4 classes, si une année, il y a moins de... Je ne sais plus quel est le quota, peut-être tu vas me dire 74 à peu près, 75. Enfin, il y a un quota qui est plus ou moins variable autour de 75. Hein, eh bien, on estime qu'il n'y a pas à avoir 4 classes. Ça coûte plus cher d'avoir 4 classes que 3. Donc, on ferme une classe et on réorganise les classes pour fonctionner à 3, quoi.
Il y a pourtant de plus en plus de gens à s'installer à la campagne. Enfin, moi, je vois des nouveaux gens à Montneuf, des nouvelles personnes arriver chaque année.
Oui, c'est vrai, pas suffisamment, sans doute. Pas suffisamment. Après, il y a...
Avec pas assez d'enfants, peut-être.
Voilà. Bon, il y a une spécificité aussi à la Bretagne, qui est qu'il y a beaucoup d'écoles privées et qu'il y en a plus, je crois, que d'écoles publiques. À peu près pareil, peut-être. Donc oui, il y a la concurrence du privé, très clairement, qui... Voilà. Il y a effectivement de plus en plus de jeunes qui s'installent. Après, ça dépend des milieux ruraux aussi. Je pense que les reportages qu'on a vus là parlaient beaucoup du milieu. Pour moi, il y a un milieu rural isolé quand même.
Oui.
J'ai l'impression
L'Ardèche,
qu'ici,
c'est le cas, oui.
Voilà, ici dans le secteur, on a un accès quand même relatif aux villes proches, à la culture. Je trouve que c'est pas, il n'y a pas une misère non plus culturelle et.
Yves, je t'entendais quand vous rencontriez avec Marie tout à l'heure, tu disais que vous vous étiez bagarré pour maintenir l'école ou une classe.
Ah oui, non, c'était pas maintenir, c'était l'ouvrir en fait à 40 ans.
L'ouvrir.
Il n'y avait pas ou plus, mais je ne sais même plus en quelle année c'était, ça fait longtemps quand même, ça fait bien 25 ans, ou peut-être 20, mais il n'y avait pas d'école publique et il y avait. Une demande de la part de plusieurs parents sur le coin, il y avait suffisamment d'élèves pour ouvrir une école publique. Et donc il y a eu plusieurs mobilisations pour arriver à ça. Puis du coup ça a marché puisqu'apparemment maintenant il y a 4 classes, plutôt bien.
Mais c'est quand même fou qu'on doive se mobiliser pour ouvrir une école publique alors qu'il y a une demande. Mais même qu'on se pose la question de savoir, il y a une école privée, c'est pas la peine d'ouvrir une école publique.
Il peut y avoir ce genre de considérations, enfin c'est d'autres considérations, mais pour revenir à la question de tout à l'heure, là c'est vrai que c'est des histoires de seuil en fait, s'il n'y a pas assez d'élèves, ça dépend des années, les effectifs par âge en fait sont très différents. Par exemple moi cette année, en classe, j'ai que 3 CM2, donc j'en ai que 3 qui vont partir l'an prochain en 6e, alors que les 2 années passées, il y en a 25 qui sont partis en fait. Il y avait des gros effectifs de CM2 ces 2 années-là, il n'y a plus petit cette année. Alors quand il y a une grosse chute d'élèves et pas assez de petits pour arriver, effectivement, c'est le risque dans toutes les écoles rurales, c'est que on ferme une classe en fait. Mais là, c'est pas nous qui décidons, c'est l'inspection académique qui va dire s'il y a 50 élèves, on est resté à 3 classes, c'est pas ça va être difficile à défendre. C'est un problème de l'école rurale, quoi. Parce que à côté de ça, les gens qui y travaillent et les gens qui l'utilisent, les parents d'élèves et les élèves, les parents sont très attachés à ça.
Oui. Pourquoi ils y sont attachés et pourquoi
un peu pour les mêmes raisons que nous, je pense. Une école, c'est des petits effectifs, tout le monde se connaît, ça se passe bien. Effectivement, tu parlais, il n'y a pas de conflit. C'est vrai qu'à Concorée, c'est rare qu'on ait... Dans les petites écoles, c'est rare qu'on ait des conflits de quoi que ce soit entre parents ou entre enfants ou entre parents et enseignants. Enfin, ça peut arriver, hein, mais...
Une école pour une commune, c'est très très important. Une petite commune qui n'a plus d'école, mais... C'est fini, quoi. Les gens ne vont pas venir s'installer. Et puis, les commerces ne peuvent plus fonctionner. Puis, voilà, ça descend. Ce qui est hyper important dans les petites écoles rurales, c'est la volonté des acteurs qui travaillent et puis qui sont autour. Il faut avoir des enseignants qui sont motivés, qui ont envie de faire vivre l'école. Et il faut aussi avoir le soutien de la mairie. Il faut savoir que qui met des moyens dans les écoles publiques, c'est les mairies qui donnent des budgets pour notamment les fournitures scolaires et puis aussi qui aident pour des projets, qui subventionnent. Et il y a aussi les parents d'élèves qui s'investissent. Une école où les parents d'élèves ne s'investissent pas, on ne peut pas faire grand-chose. Il y a des amicales laïques ou amicales des parents d'élèves, qui font des choses dans ces écoles-là, qui font vivre aussi la commune et qui permettent de pouvoir faire des sorties avec les élèves. Et une petite école en milieu rural qui n'a pas de soutien de la mairie et qui n'a pas de soutien des parents d'élèves, elle ne peut pas durer très longtemps, quoi. Donc voilà, c'est aussi important de dire qu'une école, elle ne peut pas fonctionner toute seule, quoi. Il faut qu'il y ait une volonté autour et puis à l'intérieur pour que ça puisse continuer.
Elle s'appelle toujours l'école communale.
Mais justement, ce dont on parle, c'est une communauté qui se crée autour d'un vivre ensemble. Définir simplement la persistance ou non d'un projet comme ça, en fait, en fonction simplement de questions statistiques, de chiffres, ça évince tous ces éléments-là qui sembleraient des choses essentielles. Et les statistiques peuvent devenir folles. Je parlais tout à l'heure avec un enseignant du second degré qui disait, les statistiques, c'est 30 par classe, à 31 ça va, mais à 29 ça va pas, quoi, en fait. Bon. Et donc là on se retrouve dans des enjeux qui sont des enjeux comptables, alors que les questions elles sont sociales, humaines, et ça semble aussi des évidences qu'à partir du moment où on est sur des plus petits groupes, ça se passe généralement mieux. Moi je suis sociologue, ça me semble être des évidences. C'est clair que quand on est plus nombreux, il y a plus de conflits, il y a plus... Voilà. Donc comment on n'arrive pas à faire passer ces idées-là ?
Et puis même en termes de conflits, mais même sur les... Alors, j'ai pas lu toutes les études, mais enfin, en général, il y a des études qui disent que les enfants qui viennent de classes multiniveaux, justement, obtiennent au collège généralement des un peu meilleurs résultats que... Mmh. Que d'autres. Dès qu'on parle des petites écoles rurales, des classes multiniveaux, tout le monde est d'accord généralement pour ça. Mais ce qu'il y a, c'est que ça a un coût. Ça a un coût et ceux qui décident trouvent peut-être que ça coûte trop cher. Alors que ça vaut le coup. Et tout coûte cher de toute façon. Mais faut savoir ce qu'on veut. Mm-hmm. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est bien, les enfants s'y retrouvent, ça marche, puisqu'ils sont pas du tout, sont pas du tout à la ramasse quand ils arrivent au collège, les élèves de petites écoles. Et au contraire, moi je dirais, au contraire. Mais donc tout le monde est d'accord pour dire que ça fonctionne, que c'est bien, mais on a toujours cette espèce de pression, d'épée de Damoclès, et on va pas perdre trop d'élèves parce qu'il faut en récupérer d'autres, parce que sinon on risque de fermer une classe. Évidemment, si on ferme une classe, passer de 3 à 2, les conditions sont plus les mêmes pour les enfants quand même. Alors ça fait encore du multiniveau, ça se fait aussi. Hein. Moi j'ai fait du CE1, CE2, CM1, CM2. On peut faire des bonnes conditions, quoi, ça a un coût. Mm-hmm.
Bon, dans la salle, il y a des anciens élèves d'école rurale qui ont fait même des études à la ville ensuite. Benoît, comment tu ressens cette question ?
Je me pose quand même des... Enfin, le multiniveau, je découvre un peu parce que dans mon a priori, c'est mieux d'avoir un seul niveau par classe que j'ai vécu que ça, moi. Mmh. Que j'étais à la ville, j'étais à la guerre.
Franchement, j'aurais pas dû te passer la parole, quoi, en fait.
Par contre, par rapport à vraiment la thématique de ce soir, Vous avez l'air d'être content de ce que vous faites en milieu rural. Mais quand même, quand vous avez des anciens collègues d'école ou de promo et choses comme ça, qui sont d'autres endroits à la ville ou vraiment dans les centres-villes, est-ce que certains vous disent « Oh là là, t'as trop de la chance, toi, le projet de ouf que t'as fait, le voyage que t'as fait ?» Ou alors ceux qui vous disent « Oh non, mais c'est galère, nous, à la ville, t'as trop de la chance d'être à la campagne. » Est-ce que vous avez des échanges là-dessus qui permettent de voir s'il y a aussi cette égalité entre les différents milieux ? Ou alors vous voyez plus du tout vos copains de la ville.
Je vois encore mes copains de la ville, donc oui. Alors là, c'est une question de vision, hein, comme tu disais. Toi, le niveau simple, c'est ce que tu as connu, donc ça te paraît étrange, multiniveau. Pour beaucoup de parents, ils se disent que non, ça va pas aller. Et puis pour les copains de la ville, oui, ils se disent que clairement l'école à la campagne, mais de manière plus générale, moi ce que j'ai beaucoup entendu, c'est faut emmener ses enfants partout et c'est terrible, quoi. Il n'y a pas d'autonomie des enfants sur les transports, etc. On en revient à la question du transport, mais elle est quand même centrale. C'est surtout ça. Sur les projets, oui, après, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir un éloignement des lieux de culture. Mais je trouve aussi que quand même, on est dans des campagnes qui se dynamisent à ce niveau-là et qu'en fait, la culture, on n'est pas obligé forcément d'aller la chercher à Rennes ou à Paris. Il y a plein de choses qui existent, moi, je trouve, en tout cas en Bretagne. Voilà. L'idée, à mon avis, ce serait plus de délocaliser la culture, enfin, que ce soit plus l'apanage des villes. C'est plus ça, à mon avis, le projet qui serait intéressant.
Donc, ça voudrait
dire... J'ai peut-être pas répondu bien à ta question.
Plus de services publics un peu partout.
Voilà.
Alors, il ne faut pas croire que... Parce qu'on est dans une école en ville, on va forcément avoir plein de projets, on va faire plus de choses qu'en dans une école rurale. Il y a des écoles en périphérie, j'ai eu l'occasion de travailler dans des écoles justement en périphérie urbaine du côté d'Hennebon ou de Lorient. Et voilà, c'est des écoles où il n'y a pas forcément beaucoup de moyens et où les enfants ne sortent presque pas de leur école et de leur quartier. Donc c'est pas parce qu'on est en ville qu'on va faire plus de choses qu'à la campagne. Je parlais tout à l'heure du dynamisme des petites écoles rurales. Si on est dans une école de ville, mais où il n'y a pas de volonté de la municipalité pour l'enseignement public, et puis pas de parents d'élèves qui s'investissent dans l'école, on ne peut pas faire grand-chose. On a beau être en ville, mais au bout d'un moment, s'il n'y a pas de volonté, s'il n'y a pas d'argent, on est quand même limité, même si on est en ville.
C'est quelque chose que tu vérifies aussi dans ton expérience, Yves ?
Oui, c'est le nerf de la guerre. Non, mais l'investissement des parents, c'est vrai que... Parce qu'une école n'a pas d'argent. La mairie s'occupe des locaux et puis tout ce qui est fourniture et éventuellement donne une subvention pour un projet particulier, un voyage. Mais souvent, le gros du truc, c'est l'association de parents d'élèves qui organise les fameuses fêtes d'école, les spectacles, les repas, les...
Ah, c'est pour ça qu'ils organisent tout ça.
En gros, oui, c'est aussi pour l'amour de la chose, mais un peu pour l'argent. Mais ça permet justement de financer des projets.
Ouais. Et c'est là qu'on voit l'interaction entre le besoin financier et puis le fait de considérer que c'est normal de contribuer à l'animation de la collectivité, parce que ces associations de parents d'élèves, elles contribuent à amener les gens à se rencontrer, pas être simplement sur les parents et les enfants, mais ça amène les tontons, les grands-parents et tout ça, en fait. Ouais. C'est des choses qui sont déterminantes, effectivement. Et c'est clair que à ce niveau-là, en milieu urbain, on n'a pas forcément la même relation à ces mobilisations. En fait, ça, c'est complètement évident. Marie ?
Oui, moi, j'étais assez d'accord avec Sylvain pour dire que quand on est en ville, on ne fait pas forcément plus de choses ou plus de sorties. Ça dépend de où on est. Moi, je pense que la question de la mairie, oui, en effet, et des moyens de la mairie, il y a quand même des différences entre les écoles. Quand j'étais en région parisienne, j'ai travaillé à Clichy, à Colombes, dans le nord de Paris, donc des zones plutôt défavorisées, mais aussi à Puteaux, ou à Issy-les-Moulineaux, dans le sud de Paris, où là, voilà. Et j'ai quand même ressenti, moi, fortement la différence de moyens, quoi. Les écoles, à Issy-les-Moulineaux, il y avait un intervenant en sport qui venait toutes les semaines, il y avait beaucoup d'intervenants extérieurs. Par exemple, ce qui est assez intéressant quand même de faire venir des gens qui sont un peu experts dans leur domaine, quoi, l'école. Donc il y a ça, moi, qui m'avait marqué. Quand il y a eu la réforme des rythmes scolaires et qu'il y a eu tous les TAP qui se sont mis en place, les activités extrascolaires, le débat, il était aussi beaucoup là. C'est-à-dire que, à Clichy, à Colombes, il y avait moins de possibilités de payer des intervenants. En tout cas, la mairie pouvaient moins s'investir là-dedans. Et donc, ça se transformait plutôt le temps de tape en garderie, quoi. Alors mmh. qu'en effet, à Issy-les-Moulineaux, il y avait golf, que sais-je. Enfin, voilà, il y avait des différences réelles. Enfin, même si c'est peut-être pas le plus... Mais en tout cas, voilà, il y avait une diversité de choix. Et aussi quand même une qualité d'intervenant, etc.
Et là, on peut retrouver ce qu'on exprimait tout à l'heure, à savoir que, quels que soient d'ailleurs les niveaux, ça peut être au secondaire pareil, et puis même jusqu'au lycée, il y a des endroits où on a moins de choix que dans d'autres. Donc après, on a la liberté, comme tu disais, comme Sylvain disait aussi tout à l'heure, on peut être à Paris, avoir des tas de musées, et puis même un musée pas très loin, et puis il y a des enseignants qui ne sont pas en situation d'en profiter pour plein de raisons, parce que c'est pas leur truc. Enfin bon, il peut y avoir plein de choses comme ça, quoi. En fait, c'est pas évident que, même si on a des moyens à disposition, on les exploite véritablement, certainement. Mais c'est clair qu'il y a des contextes dans lesquels on a moins de choix que dans d'autres. Donc ça veut dire que vous-même considérez que vous avez un investissement supérieur, supplémentaire, le fait d'enseigner en milieu rural ou pas ?
Supplémentaire, je pense pas, non. Tout le monde a peut-être pas le même degré d'investissement, mais ça, je pense pas que ça soit lié au fait qu'on soit en ville ou à la campagne.
D'accord.
Moi, c'était un choix, donc voilà, c'est un métier que j'aime.
Oui.
Donc, je m'y investis avec plaisir. Je pense pas que le fait de s'investir, ce soit lié au fait d'être en ville ou en campagne. Après, c'est sûr que quand on a choisi et que c'est pas subi, ben voilà, on...
Oui, bah c'est ça,
plus de plaisir.
D'une certaine manière, on en revient à cette question de choix là tout à l'heure. Oui. Et justement, est-ce que les interactions avec des intervenants extérieurs, il n'y a pas de moyen peut-être pour faire venir des intervenants rémunérés, mais est-ce que vous avez, un réseau, vous connaissez des gens qui peuvent intervenir aussi et qui peuvent venir contribuer? Est-ce que vous avez le droit de faire ça, en fait, faire en sorte que des gens extérieurs à l'école, peut-être que vous n'avez pas le droit d'en parler, je ne sais pas.
Si, si, on peut en parler. Et puis, c'est possible de faire venir des intervenants à l'école, heureusement. En fait, normalement, il faut ça s'inscrive dans un projet pédagogique. Mais bon, c'est ce qu'on fait. Donc, voilà. Et il faut l'anticiper, faire une demande et dire, voilà, on fait intervenir tel. Voilà, il faut une validation par l'inspection.
Par l'inspection.
De ça. Donc, okay. Il faut l'anticiper et voilà. Les intervenants dont je parlais, là, c'était des intervenants très réguliers qui venaient sur une base toutes les semaines.
Oui.
Il y avait une séance de sport assurée par l'intervenant sport. Oui. Mais les intervenants qui viennent ponctuellement, on peut, hein, c'est possible, au contraire. Mmh.
Quand vous n'avez pas forcément les moyens, est-ce que vous arrivez à vous débrouiller pour faire venir les personnes? Sylvain, tu dis oui.
Parfois, c'est pas très compliqué. On peut faire des choses intéressantes de façon assez simple et pour pas très cher. Mmh. Là, au mois d'octobre, il y avait la semaine du goût, par exemple.
Ouais.
On allait voir un maraîcher à Augan. On allait chez Alain Chautard, pour pas le citer. Uh-huh. Il nous a accueillis gratuitement. Hein. Il nous a offert des légumes qu'on a cuisinés. On a préparé tout un repas avec des parents d'élèves. Donc,
et vous avez eu le droit de le manger? Vous avez eu le droit de manger?
Je n'ai pas demandé l'autorisation.
Ah bon?
J'ai pris la liberté de faire la sortie et puis de préparer le repas avec les élèves et on a fait les choses simplement. Je pense que si on cherche, y a plein de choses. Si on est toujours à chercher des textes de loi, des règles, des contraintes, c'est sûr qu'on n'arrive pas à faire grand-chose.
Oui, c'est clair.
Ouais. Donc parfois, on fait les choses simplement et puis ça fonctionne.
Oui, j'espère bien. Marie?
Alors ça, c'est une différence, moi, que j'ai constatée entre, justement, l'enseignement en milieu urbain, l'enseignement en milieu rural. C'est que en région parisienne, il y a beaucoup plus de contraintes en termes de sécurité, d'hygiène, etc. Et c'est beaucoup plus appliqué par, justement, les directeurs, directrices d'école. Je pense aussi parce qu'ils savent qu'ils vont avoir plus d'ennuis que, enfin, en tout cas...
Plus de contrôle,
voilà. Il y a aussi plus d'élèves, donc plus de parents, plus de chances d'avoir un parent un peu procédurier, hein, je pense. En tout cas, moi, voilà, on me disait, pour les anniversaires, il faut demander aux parents d'apporter un gâteau du commerce. Il ne faut pas que ce soit un gâteau, voilà. Mmh. Et moi, j'étais complètement stupéfaite de ça. Et je me rends compte qu'ici, c'est toléré,
Chez toi, c'est des gâteaux maison.
Non, je disais, c'est sûr que ça doit être plus strict en ville, surtout pour tout ce qui est consigne de sécurité, parce qu'il y a beaucoup plus de monde, et puis c'est la rue, le trottoir, etc. Mais même pour le coup des gâteaux, là, il y a quelques années, on avait eu des recommandations qu'il ne fallait plus utiliser, des œufs, des trucs, enfin, c'est... Alors, évidemment, tout le monde respecte peut-être pas, parce que c'est vrai que...
À toi,
comme disait Sylvain, de respecter tout à la lettre, ça, c'est compliqué quand même. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses à respecter. La moindre petite sortie, c'est il y a de la paperasse à faire, quoi.
Ouais.
Donc, mais ça, c'est à la ville ou à la campagne, c'est pareil, hein, je pense. Ouais.
Et puis malheureusement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas que dans le système scolaire que c'est comme ça, quoi. En fait, c'est là qu'on voit effectivement que ce sont des problèmes qui sont des problèmes bien plus larges que l'école, en fait.
Comme disait Marie tout à l'heure, l'école, c'est le reflet de la société.
Oui, tout à fait. Comment vous vous projetez dans l'avenir ? Est-ce que vous pensez que ça va nécessiter de tenir bon ? Comment tenir bon pour que ça demeure ? Est-ce que vous avez une représentation de ce que ça signifie, au-delà de bien faire son boulot, etc. quoi, en fait, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des enjeux complémentaires ?
Non, enfin, des enjeux... L'école rurale, elle va changer.
Elle va changer, c'est-à-dire.
On la fera changer. C'est pas nouveau, il y a plein de choses qu'on sent venir, quoi. C'est ce que je disais tout à l'heure, tout le monde est content de l'école rurale, mais elle doit coûter trop cher, il paraît. Donc, on a beaucoup parlé, surtout l'an dernier, les rapprochements avec les collèges, etc. Je sais pas ce que ça va donner.
Justement, tu penses qu'il y a quelque chose à faire pour éviter ces choses-là ? Parce que si tu ne sais pas ce que ça va donner, j'ai l'impression quand même qu'il y a un petit écho critique là derrière, non ?
Non, il y a quelque chose à faire. Il faut la faire tourner, l'école rurale, montrer que ça marche bien. Et puis c'est ce qu'on s'emploie à faire tous les jours.
J'en doute pas. Mais en même temps, est-ce que c'est pas un problème qui est pas simplement le vôtre, quoi, en fait? C'est justement un problème de citoyenne et de citoyen pour dire qu'est-ce qu'on fait pour que ces institutions, elles demeurent, pour que, effectivement, ça continue à irriguer des territoires et puis à maintenir une communauté humaine.
Mais on est quand même extrêmement soumis aux choix politiques, en fait.
Oui, mais justement. Voilà,
le nombre de postes d'enseignants... S'il y a des écoles qui ferment, si les seuils n'arrêtent pas d'augmenter, c'est parce que pour faire tourner les écoles, il faut du monde. Mm-hmm. Et si on réduit le nombre de fonctionnaires, mais forcément, il y a des écoles qui vont fermer. Et puis, je pense les petites écoles rurales, les premières. Et je pense vraiment que si on veut continuer à faire vivre des écoles dans les campagnes, les petites écoles des communes, ça se joue au niveau local.
Oui.
C'est l'engagement des personnes qui travaillent, des municipalités, puis aussi des parents. Mmh. Voilà, quand les parents font le choix d'une école, c'est pas anodin. Mmh. Où est-ce qu'on les met ? Est-ce qu'on les met au privé, au public ? Est-ce qu'on les met dans la petite école de la commune ? Ou est-ce qu'on va les mettre dans l'école un petit peu plus grande, dans la petite ville à côté ? Voilà, ça joue aussi à ce niveau-là. S'il y a des élèves dans les petites écoles, elles fermeront pas. Après, si petit à petit les effectifs descendent, c'est sûr qu'ils ne pourront pas survivre indéfiniment.
Et est-ce que vous pensez que c'est justement... c'est pour ça aussi qu'on fait des émissions sur ces sujets-là. Est-ce que vous pensez que c'est un problème de société qui ne vous concerne pas seulement, et pas simplement les parents, en fait, les familles? Ça va plus loin, il me semble.
Oui, c'est de toute façon la situation générale du service public dont on parle ici, parce que l'école, elle est complètement là-dedans. Donc,
l'école publique.
Donc voilà, l'école publique.
Encore que l'école privée, elle est en partie dans le service public aussi, hein,
oui,
d'une certaine manière.
Ouais, oui, voilà, tout à fait.
Avec les conventions, etc., l'État la finance quand même. Oui. Non, Yves ?
Si, c'est des écoles sous contrat.
Oui, c'est ça.
Voilà. Mais... Mais qu'on parle les mêmes règles que nous, elles ne fonctionnent pas de la même façon qu'une école privée catholique, ne fonctionne pas de la même façon qu'une école publique. Déjà, une école privée, c'est un établissement, pas une école primaire publique. Et puis, les règles de sortie, le directeur ou la directrice d'une école privée est chef d'établissement, donc c'est elle qui peut pas forcément besoin d'autorisation pour des sorties. Je vois que les règles pour la piscine, par exemple, sont complètement différentes. Ils peuvent aller à la piscine beaucoup plus facilement que nous. Nous, c'est hyper contraignant, la piscine. Il faut des parents agréés, les parents qui doivent passer un agrément. Et eux ne sont pas obligés de l'avoir, quoi. Enfin, il y a des règles qui sont pas les mêmes. Après, je vais pas m'étendre là-dessus. Ça fonctionne comme ça. Mais
c'est intéressant de savoir quand même, quoi, en fait. Oui, bien sûr.
Après, du coup, ça peut avoir des implications en termes, effectivement, quelqu'un en parlait, les gens qui arrivent ici vont se dire, est-ce qu'on va mettre notre enfant à l'école publique du coin, l'école privée du coin, l'école un peu plus grosse qui est à 10 km, enfin...
Je pense que la question va au-delà de ça. On entend énormément parler en ce moment de laïcité. On parle de laïcité, mais pas forcément par rapport à la religion catholique. Voilà, c'est par rapport à notre religion. Mais il faudrait aussi qu'on se pose les bonnes questions par rapport à toutes les religions, en fait. Mmh. Le système fait que, surtout en Bretagne, on a une partie de l'enseignement qui est un enseignement privé catholique financé en partie par l'État. Or, depuis 1905, il y a une loi de séparation de l'Église et l'État. Voilà, il y a quand même des... Il faut se poser les bonnes questions, voilà.
Oui, tout à fait. Et donc, c'est quelque chose qui se règle à quel moment ? Au moment des élections, peut-être ?
C'est plus la ruralité, là. C'est...
En même temps, moi, j'imagine que ce n'est pas évident pour une mairie où il y a, par exemple, deux écoles dans la commune ou une seule école privée, de dire, j'arrive, je suis maire de la commune et je coupe toute subvention à l'école privée. Parfois, il n'y a qu'une école privée dans la commune.
Bien sûr.
Et ça devient l'école communale. Or, les gens l'identifient comme ça. Ça ne s'appelle pas école communale, mais les gens l'identifient comme l'école de la commune, quoi. Mais oui, tout à fait, moi, je suis d'accord avec Sylvain. En effet, il y a des questions à se poser, et c'est en effet des choix politiques.
Effectivement, là, on est confronté à des questionnements qui se passent aussi pour par exemple, les services publics de la Poste. Nous, à Augan, on s'est vraiment posé la question de savoir quel était l'enjeu du fait de reprendre la Poste dans un commerce de proximité alors que disparaissait le service public de la Poste. Comme ça, en fait, si on n'était pas complice de cette chose. Donc, effectivement, moi, je connais aussi des instituteurs et des institutrices qui enseignent en école privée et qui portent des interrogations du même type que les vôtres, en fait, effectivement. Patricia.
Alors moi, j'ai grandi à la campagne, pas à la campagne bretonne, mais vraiment à la campagne aussi, en Dordogne. Ma première école primaire a fermé parce qu'on n'était plus que 9. Donc, je suis allée dans une grande école avec 40 élèves. Dans un village à côté. Et par contre, pour aller au collège, en fait, on n'avait que deux options. Soit effectivement, c'était l'autocar, mais qui se prenait à 7h moins le quart, je crois, quelque chose comme ça. Et on rentrait le soir très tard, dès la 6e. Soit on partait en internat. Donc je suis partie en internat dès la 6e, dans un établissement qui me paraissait immense, puisqu'on était 300 élèves au total, et 70 internes, garçons et filles. Donc c'est vrai que après, quand on découvre un peu plus le monde, on se rend compte qu'en fait, c'était tout petit, mais c'était pourtant déjà, je trouve, moi, un pas à franchir que de passer d'un établissement de 40 enfants avec le maître et la maîtresse à un collège en 6e avec 300 élèves et puis des professeurs de plein de matières différentes. Donc voilà, je voulais juste témoigner de ça. Pour autant, ce que je voulais dire aussi, c'est que ce collège dans lequel on pouvait être interne, c'était un collège public, parce que c'est vrai qu'en Dordogne, je pense qu'en établissement privé, on doit pouvoir les compter sur les doigts de la main, du primaire au lycée, tout confondu. C'est quelque chose de très très peu répandu par chez nous. Par contre, dans ce collège, tout ce qu'il y a de plus public, avec son internat, en activité sportive par exemple, on faisait du cheval, on faisait du canoë, on faisait du golf, on faisait du théâtre, on faisait de la poterie, on faisait par l'impulsion en fait et l'investissement des enseignants, des profs d'éducation physique et sportive et surtout des chefs d'établissement, le chef d'établissement qui était quelqu'un de très dévoué, qui croyait beaucoup beaucoup en son métier. Pour dire simplement aussi qu'en milieu rural, c'est vrai qu'il y a des contraintes fortes quand on est un enfant parce que c'est dur de partir si jeune, mais en même temps, il y a aussi par l'implication des enseignants et des directeurs et des chefs d'établissement, des conditions qui sont proposées qui peuvent être assez exceptionnelles pour les enfants et puis pour les parents du coup.
Donc effectivement, le système, comme on dit, quand on n'arrive pas à identifier des gens qui en sont responsables, etc., peut être considéré comme un grand machin négatif, mais comme plein d'autres choses, ça fonctionne avec vous, avec les personnes qui le font vivre, et puis en lien avec d'autres personnes qui y contribuent. On est sur des constats qui sont un peu des évidences, mais comment on arrive à faire en sorte que ce soit ressenti autrement qu'avec des chiffres, etc., quoi, en fait. Et peut-être que c'est une des raisons pour lesquelles essayer de se poser la question d'une économie solidaire et qui est plus qualitative, ça interroge d'autres niveaux que simplement les dimensions commerciales ou productives. Mais vous êtes aussi des personnes qui investissent et qui investissent pour l'avenir. Les trois quarts du temps, on cherche votre rentabilité de manière de plus en plus courte, alors que Yves.
Ben non, c'est ça, on n'a pas une rentabilité très très courte, quoi. C'est sûr que, mais tout le monde sait que c'est un investissement évidemment très important, l'avenir des enfants. L'école, elle reflète la société, comme on disait tout à l'heure. L'école, elle est visée par des impératifs budgétaires, etc. Il faut chercher comment la réorganiser autrement. L'avenir des écoles rurales, l'an dernier, il y a eu un projet de loi qui a été un petit peu mis de côté parce que ça faisait du bruit. Un projet de regroupement d'écoles autour d'un collège, en fait. Et du coup, ça chamboule tout. Il n'y a plus d'école communale, quoi. Il n'y a plus d'école de proximité. Il n'y a plus de service public d'éducation de proximité. Ça va impliquer des transports d'enfants. Enfin, on va mettre, j'imagine, tous les CM2 dans cette école-là, tous les CP dans cette école-là. Une sorte de grand RPI, quoi, chapeauté par un collège. Et il n'y aura plus ce dont on parlait au début, c'est-à-dire qu'on voit les parents tous les matins. On les voit tous les matins, je vois quasiment tous les parents. Mmh. Et tous les soirs aussi. Mmh. Tous ceux qui viennent à l'école, quoi. Mais ils sont nombreux à venir en plus. Je pense que c'est pareil dans vos écoles. Le matin, il y a beaucoup de parents au portail et on les voit. Et ça, c'est une dimension, je pense, beaucoup plus importante qu'on ne croit pour l'école publique. Il y a le multiniveau ou pas multiniveau. Enfin, il y a tout ce qui se passe au sein de la classe. Mais tous les rapports autour, les rapports avec la mairie, mais surtout avec les parents, c'est très important. Beaucoup plus qu'on ne croit.
Quand tu parles de cette réforme-là, moi, ce que j'entendais aussi par là, c'est le management qui devient par le collège. L'instituteur, dans sa créativité, peut être aussi resserré. Il va pas faire n'importe quoi parce qu'il aura un grand chef qui lui dira ce qu'il faut faire. Et beaucoup moins de liberté aussi pour les instituteurs localement de faire ce qu'ils ont envie. Et c'est vrai que dans l'esprit, on a plutôt envie de se dire que les petites unités, elles ont aussi leur intérêt parce qu'elles ont une initiative et que c'est que les initiatives de petites structures sont bien meilleures des fois que les grosses structures qui...
Oui, mais ça ne changera pas grand-chose au niveau de la liberté des instituts. On a déjà un grand chef, en fait. On a un inspecteur qui nous voit de temps en temps parce qu'on n'a pas la liberté de faire ce qu'on veut non plus. Oui, effectivement, il y aurait un autre supérieur, mais ça serait un autre, du coup. Sauf que ce sera une personne qui dirige toute une énorme école et qui ne voit personne, en fait, parce qu'il verra aucun des parents. Bah, il connaîtra pas les enfants non plus.
Mais j'ai envie de méfier toi par rapport aux libertés. Ce que disait Sylvain, qu'il a emmené les enfants à Augan, qu'il a ramené des légumes, tout ça. Dans ce schéma-là, il dirait au directeur du collège, il dirait, est-ce que je peux faire ça? Le dit, c'est moi qui est responsable, donc c'est moi qui me mettre en danger, donc non, tu ne vas pas là.
Mais c'est déjà le cas quand on fait un projet de sortie quelque part, ça part à l'inspection et c'est un accord. Hein. Enfin, moi, à chaque fois que les voyages qu'on a pu faire en dehors, moi, je parle des voyages avec nuitée, quoi, quand on dort à l'extérieur, c'est tamponné 4 ou 5 fois, hein. Ça monte les étages, ça redescend les étages et on peut pas partir si on n'a pas l'autorisation. Donc ça, ce sera la même chose. Le directeur d'école, il est quand même important. Enfin, pour les parents, c'est quelqu'un d'important. C'est un référent, en fait. Les gens pensent même que des fois, on est un supérieur de tout le monde, alors que non. Un directeur, il est instit comme les autres. C'est juste un métier en plus, en fait. Il a une fonction en plus. Il n'y a pas de degré de hiérarchie par rapport aux autres instits de l'école. Il est exactement au même niveau. Il a juste un truc en plus. Mais n'empêche que c'est une figure que les parents identifient bien.
Ce que tu dis par rapport au directeur d'école, justement, qui n'est pas le supérieur hiérarchique des enseignants. Ça, j'ai dû l'expliquer il n'y a pas longtemps à mes élèves qui m'ont dit « Ah bon, mais c'est pas la directrice qui te dit, qui te donne presque les exercices à nous faire, quoi. » Ils étaient complètement étonnés de ça. Ils pensaient vraiment que je faisais ce que la directrice me disait de faire. Ouais.
Ça, mais plein de parents sont persuadés aussi. Il y a plein d'idées comme ça qui sont dans l'air, qui sont parfois surprenantes pour nous quand on en entend parler, quoi. Comme ça, par exemple... Quand je dis moi que non, je suis pas le chef de celle d'à côté, les gens croient que c'est un directeur, il a un pouvoir sur l'école, rien du tout, pas du tout, c'est juste c'est la faire tourner en fait, c'est animé, puis les relations avec la mairie, etc. Mais les autres instituts ont aussi évidemment des relations avec les parents et avec la mairie s'il y a besoin. Enfin, moi c'est dans ce qui se prépare ou ce qui se préparerait, je sais pas, c'est ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui dirige le truc, mais qui soit loin, parce que enfin, c'est loin. Moi, le collège de secteur, il est à 10 km, mais je suis persuadé que les gens qui y travaillent connaissent même pas trop l'école primaire d'ailleurs. Tu parlais de un niveau ou plusieurs niveaux tout à l'heure là, et j'ai même eu moi des fois des réflexions de profs de collège qui me disent CE2, c'est 3 niveaux. Oh, mais c'est possible. Et ils sont enseignants en collège, quoi. Sauf que eux, bah, ils ont dû être, quand ils étaient à l'école, ils étaient dans une école, des grosses écoles, quoi. Donc, une seule classe par classe d'âge, en fait. Donc, ça surprend même certaines fois des enseignants le fait qu'on puisse avoir 3-4 niveaux, enfin 3-4 classes d'âge. Parce qu'après, niveau, c'est encore autre chose. Mais... Donc, il y a plein comme ça d'idées. L'école, ça doit être, c'est comme ça, ça doit être comme ça. On pense, moi j'ai déjà eu la réflexion, le bureau du directeur, j'ai même pas de bureau en plus, mais. Le bureau du directeur, c'est un truc dans l'imaginaire collectif, j'ai l'impression, quoi.
Sylvain ?
Oui, il y a aussi des parents qui pensent que le directeur peut accepter ou refuser l'enfant à l'école. Alors que non, voilà, service public, on prend tous les enfants à l'école. À partir du moment où il est en âge d'être inscrit, voilà, on l'inscrit à l'école. Mmh. Et sinon, on parlait aussi tout à l'heure donc, de la liberté pédagogique et puis donc du projet de loi là, qui... avait fait un peu de bruit l'année dernière et qui finalement est abandonné, mais enfin abandonné, mis un peu de côté, oui, mais ça. Voilà, faut quand même être vigilant pour
oui, que ça reste
au
frigo
revienne, tout doucement. La tendance est quand même un petit peu à limiter la liberté pédagogique. Il y a des nouveaux outils là qui sont sortis avec donc le nouveau gouvernement, un petit livre orange notamment qui est destiné aux enseignants de CP, donc qui indique comment apprendre à lire aux enfants. Mmh. Et on nous a aussi mis des nouvelles évaluations nationales qu'on doit faire passer deux fois dans l'année aux élèves de CP et de CE1. Mmh. Donc voilà, c'est quand même des choses qui, à titre personnel, m'inquiètent un petit peu, quoi. Mmh. J'ai l'impression que petit à petit, on nous impose des choses.
Mmh. Des modèles.
Voilà.
Mmh. On va pas tarder à s'arrêter là parce que on arrive à notre format, à notre modèle en fait. Bon. Mais moi, ce que j'aimerais retenir, c'est que parmi les choses qu'on peut trouver intéressantes et sur lesquelles, à mon avis, on a essayé de les défendre, c'est la proximité. La proximité qui fait que les gens se connaissent, ils peuvent s'apprécier, etc. Ils peuvent aussi agir ensemble, se soutenir. J'entends aussi le fait que, eh bien, parmi les choses qui sont importantes, c'est la taille. Et que avoir des petites unités, ça peut poser des problèmes en termes de moyens, et que là-dessus, il y aurait certainement à améliorer les choses, surtout dans des territoires qui sont des territoires. Ça se voit pas trop quand même par chez nous, mais on est bien en dessous des moyennes nationales en termes de revenus, comme ça en fait. Donc il y aurait certainement des besoins pour pouvoir améliorer les choses. Et puis aussi considérer que justement être dans la proximité et puis faire en sorte que il y ait des équipements partout, et puis que ce soit des équipements publics aussi, au service du public, porté par des personnes qui sont des personnes compétentes et qui ont une sécurité d'emploi, etc. Ben, ça peut sembler des évidences, et qu'il faut rappeler. Et puis, ce que je retiens aussi, c'est ce que vous exprimiez tout à l'heure, le fait que le modèle hiérarchique est tellement dans la tête de tout le monde, en fait, qu'on n'imagine pas qu'un directeur puisse être au même niveau que ses collègues, qui ait un rôle de coordination, je dirais, horizontale et tout ça. En fait, on est vraiment parasité par ces représentations. Le directeur, il donne une direction. Non, il dirige, il donne une direction. C'est tout. Et normalement, c'est ça. Il n'est pas forcément un chef. Et c'est un petit peu différent. Le chef, c'est caput, c'est la tête, comme ça, en fait. Bon, et donc, le directeur, c'est autre chose. Toutes ces évidences-là, eh bien, si on peut les partager, c'est la raison pour laquelle, eh bien, on essaye de continuer les blablas avec un public super enthousiaste, vraiment, et motivé. Bon. Mais en tout cas, merci de nous avoir accueillis. Merci Agathe et puis Marie en tant que présidente, co-présidente de l'association pour le bar. Merci à nos témoins, Yves et puis Sylvain aussi. Et puis merci à Hervé qui a tenu la technique malgré des petits avatars de circulation, dirons-nous. Voilà. Et puis, si ça vous a plu, eh bien, le mois prochain, c'est à Guillac et c'est sur une thématique du même ordre qui interrogera le métier d'institut, justement. À bientôt.
Les blablas de l'ESS,
c'est sérieux ?
Sans se prendre au sérieux.